Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 26. Lobby, shopping mondial et mollusque marin.
Full Continental. Caroline Gillet. Sur France Inter et la RTBF.
Bonjour et bienvenue à tous, vous connaissez le principe, une fois par mois j'invite Maxime Caligaro dans l'émission pour parler d'Europe depuis les institutions à Bruxelles. Maxime c'est un ancien eurocrate, il a aujourd'hui la petite trentaine, et comme il a un peu le trac, il a toujours sa chemise fétiche grise qu'il met tous les mois. Bonjour Maxime.
Bonjour, je la lave entre temps.
Je t'invite ici parce que tu es la seule personne que je connaisse qui fasse des blagues sur les directives européennes et ça marche. Tu as aussi écrit Les Compromis, un polar qui se déroule dans les couloirs du Parlement européen, mais une fois par mois donc tu viens ici et tu sors de la fiction pour passer à l'enquête dans le réel. Et alors, tel un mollusque marin, tu pars en immersion dans ce monde étrange des institutions européennes. Cette fois-ci, on s'est dit que tu irais remuer les fonds marins pour comprendre si les lobbies font la loi à Bruxelles et comment on négocie les accords de commerce. Ça fait peur comme ça, c'est le but. Mais d'abord, il reste moins de 100 jours avant les élections européennes. On s'est dit qu'on allait passer en revue les différents partis politiques et leurs candidats au poste de président de la Commission européenne. Le président de la Commission européenne, c'est un peu le quasi-chef suprême de l'Europe. Dans le dernier épisode, on avait parlé du candidat de la droite, l'Allemand Manfred Weber. Et on avait conclu que si l'Europe était une série télévisée genre House of Cards, Manfred Weber, il ne ferait pas un super perso. Aujourd'hui, on passe aux socialistes européens et leur candidat, le néerlandais Frans Timmermans. Ambiance. Alors Maxime, Frans Timmermans, c'est qui ? Est-ce qu'il ferait un bon personnage de série ?
Alors, Frans Timmermans, il est hollandais, il est commissaire européen et il ferait un super personnage de série télé. Il est plein d'ambition, il est malin et il parle parfaitement 6 langues.
La classe.
On pourrait regarder ses aventures partout sur le continent, sans sous-titres. Mais on se demande, chez les socialistes, s'il n'y a pas une erreur de casting. Parce que Frans Timmermans fait débat au sein de la gauche européenne. En effet, il est membre sortant de la Commission européenne du luxembourgeois Jean-Claude Juncker, un homme de droite. Et pour les socialistes européens, c'est difficile d'assumer le bilan d'une commission présidée par la droite.
Logique.
Attention, tout n'est pas à jeter dans le bilan de la Commission européenne de Jean-Claude Juncker. La directive sur les lanceurs d'alerte, l'interdiction des plastiques à usage unique, il y a beaucoup de dossiers chers à la gauche qui ont vu le jour en partie grâce à Frans Timmermans. Et c'est lui qui mène la bataille des valeurs contre le gouvernement polonais et hongrois. Mais la gauche européenne est un peu paumée en ce moment. Elle ne sait pas s'il faut continuer à exercer le pouvoir en coalition avec la droite, comme l'a fait Frans Timmermans avec Jean-Claude Juncker, et comme la gauche le fait avec la droite depuis le début du projet européen, ou si la gauche doit se faire plus radicale, entrer dans l'opposition, au risque de tout bloquer, ou d'offrir à la droite et à ses franges les plus extrêmes le pouvoir en Europe.
Et alors, pourquoi est-ce que les socialistes européens l'ont choisi, lui, si c'est pas le meilleur candidat ?
Eh ben, alors, c'est un bon candidat, mais c'était pas le plus évident. Mais surtout, il y avait personne d'autre pour y aller. Tout le monde prédit que les socialistes vont se prendre une dérouillée en mai. D'après les derniers sondages, ils devraient perdre, au bas mot, 56 sièges. Et donc, il y avait d'autres candidats qui étaient prêts à y aller, mais qui finalement se sont désistés et ont laissé Frans Timmermans aller au front. En me baladant dans les couloirs qui accueillent les bureaux des socialistes à Bruxelles, j'ai croisé un copain assistant parlementaire. Je lui ai juste demandé... Alors ça va ? Il m'a répondu « Bah non, tu vois bien, je suis à l'étage des socialistes ». Bref, Frans Timmermans, c'est pas vraiment un héros de série à l'américaine, c'est plutôt Leonardo DiCaprio dans Titanic, un acteur excellent que tout le monde aime détester, mais sur un gros bateau qui coule.
Restez avec nous, on va parler de la partie immergée de l'iceberg européen. On passe au sujet numéro 1 sur 2, les lobbies à Bruxelles.
Full Continental sur France Inter.
Alors dans l'épisode 11 de cette émission, qui s'appelait Bruxelles Chantier, on était avec l'auteur Ludovic Lamant sur le rond-point Schuman. Le rond-point Schuman, c'est le cœur de la capitale européenne. On parlait de l'architecture, de ce qu'elle racontait du projet européen. Et pendant la visite, il m'avait montré la commission d'un côté, le conseil de l'autre, et aussi les sièges des grandes entreprises qui étaient installées pas loin pour tenter de peser dans le game. Il m'avait dit alors, il y a environ 30 000 lobbyistes à Bruxelles, ce qui me semble hallucinant, et ce qui semble aussi confirmer leur influence. Quand on parle des institutions européennes, on pense souvent à eux. On va essayer ici de comprendre leur véritable place et de parler des règles qui changent en ce moment pour réguler leur activité. Alors Maxime, 30 000 lobbyistes, ça paraît fou, c'est quoi ?
Alors, c'est pas un chiffre exact, c'est plutôt une estimation. Et dans cette énorme masse de lobbyistes, il y a un peu de tout. Il y a des cabinets de com qui représentent les entreprises et les gouvernements, il y a des ONG qui défendent la nature et le climat, des syndicats, des fédérations professionnelles avec des noms assez fun, comme Kaobisco, l'association des producteurs de chocolat et de biscuits. Il y a même un lobby qui défend notamment les intérêts des producteurs de saucisses et qui s'appelle, promis c'est vrai, le Clitravi.
Alors ceux qui n'ont pas compris cette blague de Maxime tout de suite de la première fois, ils pourront réécouter l'émission. Mais nous, dans l'imaginaire collectif, le lobbyiste, c'est pas mal de fantasmes. On imagine un mec en costume, des rendez-vous le soir dans des parkings, des valises de cash et une influence indirecte, intraçable et souvent néfaste sur les décisions au plus haut niveau. Est-ce que c'est plus ou moins ça ?
Alors, à la base, il y a quelque chose de ça. Hein. Le terme lobbyiste a été popularisé à la fin du 19e siècle par un président des États-Unis qui venait souvent fumer un cigare dans le lobby des hôtels dans lesquels il descendait. Alors, tu vois, lobby, lobbyiste, tu vois où je veux en venir. Et effectivement, les lobbyistes étaient ceux qui venaient à sa rencontre dans le hall de l'hôtel pour lui offrir un petit verre dans l'espoir d'avoir ses faveurs et de lui faire passer une idée. Mais aujourd'hui, ça a changé. La plupart des lobbies qui sont à Bruxelles sont inscrits sur un registre de la transparence qui existe depuis 2011. Alors tu verras, tu peux aller sur Internet, tapoter le nom d'une entreprise ou d'un cabinet de consultants et tu peux voir le nombre d'employés, le budget pour le lobby, qui les emploie, pourquoi.
Ben, on mettra le lien sur la page du site Full Continental pour ceux qui veulent aller décortiquer tout ça.
Voilà, et moi, en regardant la liste des lobbies inscrits sur ce registre et en y voyant côte à côte des ONG environnementales et des groupes pétroliers, j'ai repensé à ce sketch des Inconnus.
Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur ?
Ah, je l'attendais celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire.
Ouais, bien sûr.
Il tire.
Et le bon chasseur ?
Bah, le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais.
Bon, t'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Ouais, voilà. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein.
Ça se rend... ça, c'est les questions à la con.
Il faut leur expliquer aux gens parce qu'ils ne savent pas faire la différence après.
Et donc Maxime, tu as voulu comprendre si, comme il y a des bons et des mauvais chasseurs, s'il y a aussi des bons et des mauvais lobbyistes.
Voilà. Et j'ai commencé par me demander si le lobby était une bonne chose en soi. Et pour ça, je suis allé voir Pascal Durand, un eurodéputé français qui siège dans le groupe des Verts et qui suit de très près les dossiers de transparence.
Le lobby est plutôt bon, dans le sens où il permet d'éclairer la décision et d'avoir des informations. Moi, ça ne me choque pas, par exemple, que l'industrie automobile, elle vienne nous expliquer que les éléments de sécurité dans une voiture, ça doit être ça ou ça. Ce qui me choque, c'est si le lobby avance masqué. Ça, c'est du très, 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 très mauvais lobby. C'est celui qui cache la réalité. Après, que moi, je mette en balance, et c'est tout mon travail, sur une question de gaz à effet de serre, d'émissions, etc., que je mette en balance ce que me dit l'industrie et ce que me disent les ONG ou les associations, j'allais dire, ça, c'est mon job. Et ça serait pas honnête qu'un politique se contente d'une seule version d'un sujet. Donc, oui, il y a du bon lobby.
Et comment vous faites pour choisir les personnes que vous rencontrez en tant que député européen ?
Alors, moi, je rencontre tous ceux qui demandent à me rencontrer dans le cadre des règles que nous nous sommes fixées au groupe des Verts, c'est-à-dire que nous ne rencontrons que les lobbyistes inscrits sur le registre de transparence. Je ne les rencontre que en présence de tiers ou de mes assistants, jamais en tête-à-tête. Et je les rencontre en fonction de ce qu'ils peuvent m'apporter sur un dossier sur lequel je travaille. S'ils demandent à me rencontrer sur un dossier sur lequel je ne travaille pas, là, je considère que je n'ai pas à les rencontrer et je les renvoie sur le parlementaire qui est en charge du dossier.
Et les autres parlementaires, est-ce qu'ils font comme lui à l'intérieur du Parlement ?
Alors, pas tous. Clairement, les Verts sont à la pointe en matière de transparence, mais ça va changer. Le Parlement européen vient de modifier ses règles internes pour que les députés qui bossent sur un dossier aient l'obligation de rendre public les rendez-vous qu'ils ont eus avec l'industrie, avec les lobbies, pour que l'on puisse établir la traçabilité des décisions, un peu comme on peut établir la provenance d'un morceau de viande.
Donc tous les députés vont devoir publier l'intégralité de leur agenda ?
Alors pas tous, ceux qui bossent sur un dossier précis. Pour certains, c'est une révolution, pour d'autres, ça ne va pas assez loin, mais en tout cas, ça avance.
Et ce que tu me disais, c'est que cette question de transparence, c'est à la fois lié à un enjeu politique, on l'a entendu, et aussi à un enjeu culturel.
Oui, les institutions européennes ont été précurseurs en matière de transparence. En France, par exemple, ce n'est que depuis 2016 qu'on encadre strictement ou en tout cas plus strictement les lobbies.
Oui, j'avais vu qu'en France, ça avait l'air quand même plus feutré. J'avais lu dans l'Express, il y a quelques années par exemple, qu'il y avait des déjeuners à plusieurs milliers d'euros qui étaient offerts par l'industrie du tabac, par exemple, à des politiques. Mais alors pourquoi est-ce que l'Europe est comme ça en avance sur les pays comme la France ?
Ah ben ça, c'est l'influence des Nordiques dans les institutions. En Suède, au Danemark, en Hollande, on est beaucoup plus pointilleux sur les questions de transparence. Par exemple, tous les députés européens et leurs équipes disposent d'une enveloppe mensuelle pour la bureautique. Bon, certains parlementaires se la mettent dans la poche en complément de salaire. D'autres s'obligent, s'imposent de déclarer jusqu'à leur crayon. C'est le cas des Hollandais socialistes, par exemple. Je me souviens d'une députée hollandaise qui s'était fait éjecter de son parti parce qu'elle n'avait pas assez détaillé ses comptes. Dans le nord de l'Europe, on rigole pas avec l'argent public.
Oui, et d'ailleurs, on reparlera de crayon plus tard dans l'émission. Mais donc, c'est à la fois un fait culturel, cette histoire de transparence, une culture politique. C'est donc différent, comme on le disait, selon les partis.
Selon les partis et selon l'influence qu'ils ont, hein, le poids des Verts au Parlement européen est moins déterminant. Donc ils peuvent être moins sous la pression des lobbies et donc plus à l'aise pour publier leurs agendas. En tout cas, c'est aux Verts que l'on doit le renforcement de la transparence au Parlement. On écoute à nouveau Pascal Durand nous faire le récit de cette bataille.
Nous avons réussi à imposer à la Commission le fait qu'elle publie ses rendez-vous avec les lobbyistes, etc. Et les parlementaires, au nom de la liberté de leur mandat et du fait qu'ils sont élus par ce qui est vrai, par les citoyens, et que donc en gros ils font ce qu'ils veulent une fois qu'ils sont élus, ne veulent pas publier leurs rendez-vous notamment. Et donc nous on s'est battu là-dessus, on essaye à chaque fois de revenir et on met le pied dans la porte. Dès qu'il y a un texte qui parle de transparence, dès qu'il y a un texte sur le règlement intérieur, le code de conduite des uns des autres, hop, on arrive avec notre amendement et on dit « Eh, à propos, on aimerait bien la publication de... » Bah. Et on a lancé, grâce à Julia Reda, qui est venue élue en Allemagne par le Parti Pirate, qui travaille avec nous, donc, et qui travaille sur les logiciels libres, etc., etc. Elle a dit « Mais il y a des logiciels qui permettent maintenant de publier, mais c'est même pas compliqué, d'un clic, vous avez un rendez-vous, il est dans votre agenda, crac, ça part. » Et donc, on a mis en place un lobby call. Donc, il est très très simple. Moi, je m'en sers comme tous les députés verts, moi j'espère. À chaque fois que vous avez un rendez-vous, soit moi, soit mon équipe, il part directement dans un document transparent, publié, public.
Donc on va savoir qu'on s'est vu ce matin et si
vous
je suis...
Non, vous n'êtes pas lobbyiste, vous êtes journaliste. Et donc ça ne concerne ni les rencontres avec les citoyens, donc tous les gens qui veulent me voir, des citoyens, donc ceux-là ils me voient tranquillement, les journalistes me voient tranquillement, et c'est simplement, non, des rencontres avec des intérêts. Et donc on a profité de la révision du code de conduite qui était menée par un député travailliste britannique, Richard Corbett. Et hop, donc on a fait ce qu'on fait à chaque fois, je plaf, on amène notre amendement.
Et donc, hop, crac, pouf, qu'est-ce qui se passe ?
Bim, whiz, blanc, l'amendement passe d'une voix en commission parlementaire, mais le vote en commission parlementaire, c'est l'étape numéro 1, il faut ensuite aller en plénière. Et là, paf, comme dirait Pascal Durand, la droite sort un article obscur du règlement de procédure qui permet de demander un vote à bulletin secret. C'était du jamais vu au Parlement européen, et ça se fait sur un texte sur la transparence, c'était le cliché total.
Et c'était quoi le résultat du vote ? Est-ce qu'on sait à peu près qui a voté pourquoi ? Je sais que c'est un vote à bulletin secret, mais est-ce qu'on a une petite idée ?
Non, enfin ça c'est le principe du vote à bulletin secret. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'amendement est passé à 4 voix, sur le fil. Et pour la petite histoire, l'idée du vote à bulletin secret est venue d'un député du Fidesz, le parti de Viktor Orban.
Bon ben ça c'est fait, donc. Mais la solution en général, si on revient sur cette idée des lobbies, c'est donc de mieux les encadrer à Bruxelles.
Oui, mais ça suffit pas. En tout cas, ça c'est le point de vue d'Alberto Alemano. Il est professeur de droit, il a créé une start-up qui s'appelle le Good Lobby. Et pour lui, le défi, c'est surtout d'encourager le bon lobby, le lobby citoyen.
C'était une erreur de encadrer les lobbies en pensant qu'en se faisant, on est capable d'égaliser et donc de permettre à tous les intérêts d'être représentés de la même manière. Ça n'a pas fonctionné. Au contraire, il faudrait encourager les lobbying. La démocratie a besoin de plus de lobbying et donc il faut que les institutions, les autorités publiques puissent encourager les gens. L'idée que j'ai développée, l'idée d'avoir, au lieu d'avoir simplement une aide judiciaire qui permet aux gens d'aller devant les juridictions, lorsqu'ils ne peuvent pas se permettre un avocat, eh bien d'avoir une aide du lobbying.
Et comment ça se matérialise alors son projet, cette histoire d'aide au lobbying ?
Alors concrètement, lui, il met en contact des citoyens qui veulent défendre une bonne cause et des pros du lobbying prêts à bosser gracieusement, un peu comme certains grands avocats prennent des causes nobles ou des causes perdues d'avance. C'est un genre de Tinder du lobbying.
Donc, s'il y a des good lobbies, comme le défend Alberto Alemano, c'est forcément qu'il y a du bad lobby. Est-ce que toi, tu as trouvé des lobbyistes qui sont à la solde, je sais pas, de gros intérêts financiers, des trucs un peu crades.
Alors crades, je sais pas, mais des lobbies pas populaires dans l'opinion, oui. J'ai rencontré des lobbyistes qui travaillent pour la banque, pour la pétrochimie, pour l'alcool. Alors eux sont un peu plus méfiants parce qu'il y a de gros, gros, gros enjeux. Pour une émission sur l'environnement, par exemple, j'avais voulu rencontrer des lobbyistes de l'industrie du plastique. Personne à Bruxelles n'avait voulu me parler. La boîte qui s'occupait de leur com à Paris m'avait expliqué que les journalistes n'étaient pas forcément des copains et qu'ils avaient l'impression d'être constamment caricaturés dans les médias.
Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, c'est quoi le profil type, sans caricaturer, mais de ce genre de lobbyiste ? Est-ce qu'il y a un parcours assez typique ?
Alors, le CV type, c'est Master en Affaires Publiques, Sciences Po ou Études de Droit. Ils sont soit des experts de la tuyauterie institutionnelle qui mettent leur savoir au service d'une industrie, soit des experts dans un domaine qui viennent à Bruxelles pour apporter leur expertise. Ensuite, on peut les classifier par tranche d'âge. Les plus jeunes, les juniors, font de la veille législative, ce qu'ils appellent du monitoring. En gros, ça veut dire qu'ils se tapent tous les communiqués de presse des institutions ad nauseam pour rédiger des fiches pour leurs clients. Et ensuite, il y a les seniors. Eux, ils rédigent des amendements qu'ils vont ensuite essayer de passer en rendez-vous aux décideurs.
Et les lobbyistes, est-ce qu'ils s'affichent comme tels quand t'es lobbyiste ? Est-ce que tu l'annonces ? Tu l'assumes ?
Alors, lobbyiste à Bruxelles, c'est pas un gros mot, c'est une profession respectée, mais c'est vrai que ceux à qui j'ai parlé me disaient que quand ils rentrent dans leur pays, dans les repas de famille le dimanche, ils disent plus volontiers qu'ils travaillent dans la communication ou dans les affaires publiques. Mais j'en ai trouvé un qui assume totalement et qui m'a ouvert les portes de son cabinet. Il s'appelle Thomas Barros-Tasté. Lui, c'est le lobby plutôt cool, même s'il n'a pas que des clients cool. Et il m'a reçu en sneakers blanches et en petit pull dans son bureau.
C'est un métier qui est assez simple. Enfin, on se fait plein d'images là-dessus. Mais à la fin des fins, ce en quoi on aide nos clients, c'est répondre à des questions simples. Qu'est-ce que je dois dire ? À qui je dois le dire ? Quand je dois le dire et comment. Quand on va en rendez-vous, on partage des documents, on partage des notes pour montrer que l'argument que je présente, il est fondé sur des faits, etc., etc. Mais il est évident qu'on ne parle pas de la même façon à un membre de la Commission européenne, qui sont en général des gens assez qualifiés, très techniciens des sujets politiques sur lesquels ils travaillent. Les parlementaires sont aussi dans une logique plus purement politique, c'est-à-dire qu'ils rendent des comptes, ou sont censés rendre des comptes aux opinions publiques, donc ils regardent les choses un peu différemment. Les États membres, eux, qui sont, de mon point de vue, le grand lobby caché ou pas caché, mais pas assumé concrètement, parce que la représentation permanente de la France ici est une immense entreprise de lobby qui défend les intérêts français.
Et là, il touche du doigt un truc intéressant. Dans un récent rapport, l'Observatoire des lobbies Corporate Europe montre comment les gouvernements sont devenus les meilleurs lobbies des grandes entreprises. Il donne plein d'exemples concrets.
Ok, on mettra le lien vers le rapport en français sur la page de l'émission Full Continental. Et quand on est lobbyiste, est-ce qu'on choisit ses clients ? Enfin, comment est-ce qu'on est recruté par une entreprise ou par un secteur ?
Alors, tout simplement par appel d'offres. Des compagnies qui disent « je veux être représenté à Bruxelles, qui peut m'aider ?» mettent ça sur leur site internet. Les cabinets comme le sien, comme celui de Thomas, répondent et tentent de décrocher le marché. Je lui ai demandé, à l'inverse, comment est-ce que lui choisissait ses clients et s'il avait déjà eu des dilemmes moraux. Il m'a donné un exemple.
Il y a quelques années, donc c'était en 2011 ou 2012, je pense. Il y avait déjà la guerre en Syrie. L'Union européenne avait établi une liste noire de personnalités qui, donc, se retrouvaient sur cette liste, ne pouvaient plus accéder à leurs comptes bancaires, etc. Et un homme d'affaires, via un cabinet d'avocats britannique, nous avait approché en disant « Voilà, je me retrouve sur la liste noire, mais c'est une homonymie et c'est une mauvaise traduction de mon nom. Je ne suis pas la personne qui devrait être ciblée par les institutions européennes. » Et on en a discuté entre nous, on avait été approchés, on a discuté entre nous, on s'est dit non, là, on va pas prendre ça parce qu'on n'a pas envie, d'être associé au régime de Bachar al-Assad, etc. Pour l'anecdote, il se trouve que cette personne avait raison. C'est-à-dire qu'effectivement, elle s'est retrouvée, entre guillemets, délistée, c'est-à-dire elle a été... les choses ont été corrigées, mais nous, on n'a pas pris. Traditionnellement, pendant longtemps, et puis ça n'a jamais été le cas, on n'a pas travaillé pour l'industrie du tabac, voilà. Moi, à titre personnel, j'ai mes idées sur l'industrie du tabac, mais dans ma société, on ne travaille pas pour l'industrie du tabac. Voilà, il y a des au cas par cas. Quand il y a vraiment des sujets un peu litigieux, on se dit, bon, on en discute entre nous et on prend ou on prend pas. En ce moment, on travaille pour le gouvernement du Panama sur les problématiques qui ont à voir avec la transparence financière, puisque l'Union européenne prend des mesures sur ces dossiers-là singularise et pointe du doigt certains gouvernements. Voilà, donc dans ce cadre-là, moi, mon travail, c'est de, sur la base du réel, c'est-à-dire sur la base des réformes législatives qui ont été faites au Panama, essayer de convaincre les institutions européennes que beaucoup a été fait et que et qu'il n'y ait pas nécessaire de les pointer du doigt. C'est un dossier qui est assez chaud actuellement. Voilà.
Du coup, Maxime, après ton immersion à Bruxelles parmi les lobbyistes, est-ce que tu comprends un peu mieux ce qui serait un bon et un mauvais lobby ?
J'ai l'impression que, comme dans le sketch des Inconnus, il y a le bon et le mauvais lobbyiste, mais que les deux font un peu la même chose. Ils ont un intérêt à défendre, ils voient un politique, ils essaient de l'influencer. Mais toi, tu le qualifieras de bon ou de mauvais lobby en fonction des causes que toi tu penses être bonnes ou mauvaises, le climat, les entreprises, les poissons ou le tabac.
En tout cas, l'influence des lobbies à Bruxelles est bien présente et de plus en plus régulée, mais tous n'ont pas le même poids. On est encore loin d'un écosystème complètement pluraliste. Nous, ici, à la Maison Ronde, c'est Djoubaka, le lobbyiste en chef pour la musique, et il a fait le forcing pour qu'on passe ceci, H. Burns. Crazy Ones.
It's been a long, crazy winter strike. It's been hard trying to make it on your own. Oh, honey, I know. I'm keeping the sweetest of summertime. We've been trying to get our shit together and make it out alright. Why do we always love the crazy ones? Always love the crazy ones. Why do we always love the crazy ones? Always love the crazy ones. It's been a slow dive into the black. It's been hard trying to make it on your own. Oh, honey, I know. It's been a long time up to the light. We've been trying to get our shit together and make it out alright. Why do we always love the crazy ones? Always love the crazy ones. Why do we always love the crazy ones? Always love the crazy ones. Feeling hazy like you're never gonna make it on your own. I was just about to lose my temper on that telephone. Oh, and the jealousy burns you to the bones. Yeah, you know what I mean.
Dans Full Continental, on est toujours avec Maxime Caligaro, auteur, ancien eurocrate, propriétaire d'une très belle chemise grise et envoyé spécial une fois par mois dans les institutions bruxelloises. Avec lui, on n'a pas peur de la complexité. Après avoir expliqué comment l'Europe calcule les quotas de pêche dans une mensuelle précédente, on vous propose dans cet épisode de parler des accords commerciaux, ces accords un peu mystérieux, voire complètement flippants, avec des acronymes JEFTA, TAFTA ou TTIP. Maxime, pour commencer, pourquoi est-ce que ces accords ont leur place dans une émission sur l'Europe ?
Parce que négocier les accords commerciaux, c'est le job de la Commission européenne. C'est ce qu'on appelle une compétence exclusive. On est dans un grand marché unique, et donc concrètement, la France et la Belgique toutes seules n'ont pas le droit d'aller négocier des accords commerciaux de leur côté avec, je sais pas, l'Australie ou le Togo.
Et grâce à ces accords commerciaux, on découvre parfois des petites institutions très reculées, des régions même. Je me souviens, après des années de blagues sur la Belgique sans gouvernement, il y a eu les blagues sur le gouvernement wallon. Le Monde découvrait, c'était il y a quelques années, cette petite assemblée qui bloquait l'entrée en vigueur du CETA. Voilà un rappel des faits diffusé sur Arte dans une série sur les grands discours.
En octobre 2016, toute l'Europe était prête à signer ce traité de libre-échange, baptisé CETA, imaginé entre l'Union européenne et le Canada. Toute l'Europe, ou presque. La Wallonie, l'une des fédérations belges, décide le 14 octobre de rejeter cet accord par la voix de son chef de gouvernement, le socialiste Paul Magnette.
Comme je m'y étais engagé, je ne donnerai pas les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral et la Belgique ne signera pas le CETA.
L'institution européenne, dont la commissaire en charge du commerce Cecilia Malmström, tente de convaincre les États d'accepter cet accord. La société civile européenne se mobilise pour alerter l'opinion sur les conséquences de ce traité.
Alors là, la musique est assez inquiétante et ça colle avec une sensation répandue. Ces accords et les règles de commerce mondial, ça fait peur.
Ouais, ça n'a pas toujours été le cas en revanche. Jusqu'à très longtemps, le commerce mondial était assez consensuel, mais les choses ont changé. C'est André Sapir, un professeur d'économie de l'Université libre de Bruxelles, qui m'a expliqué ce qui s'est passé, pourquoi le monde avait basculé. Il m'a rappelé le protectionnisme des années 30 et l'ouverture des économies. Après la Seconde Guerre mondiale, on l'écoute.
Dans cette période, on a eu des niveaux de protectionnisme commercial qui ont été assez élevés. Des droits de douane, des taxes à l'importation. Donc dans l'après-guerre, on va avoir des négociations entre les pays pour diminuer ces barrières aux échanges à travers des groupements régionaux, en particulier comme l'Union européenne, mais aussi à travers des instances internationales, le GATT, qui va devenir l'OMC. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est les pays qui participent aux échanges. Dans les années 50, dans les années 60, je dirais encore dans les années 70, quand j'étais un jeune homme, les pays industrialisés, dont l'Europe, font du commerce avec les pays en voie de développement, les pays du Sud. Nous achetions essentiellement des matières premières et on leur vendait des produits manufacturés. La Chine, elle était absente du commerce international. C'était un pays qui vivait en autarcie. Aujourd'hui, la Chine, l'Inde, le Brésil, qui sont devenus aujourd'hui des pays industrialisés, ce sont aussi pour nous des marchés. Et donc le commerce mondial aujourd'hui, c'est réellement du commerce mondial. Mais dans un monde effectivement où il y a des pays où les salaires sont plus faibles, ils sont aussi des concurrents. Et puis il y a aussi le fait que la croissance chez nous est plus faible qu'elle ne l'était à l'époque aussi. Le chômage moyen en Europe, c'était 3-4%. Donc le monde a changé, nous avons changé, on a des populations qui sont plus vieillissantes, on est moins moins entreprenant relativement qu'on l'était, et puis le monde est devenu un monde plus compliqué.
Donc le monde a changé, tout va plus vite et tout est plus compliqué.
Voilà. Alors pour essayer d'y comprendre quelque chose, je suis allé à Bruxelles pour interroger la commissaire européenne au commerce dont il était question dans le documentaire d'Arte qu'on entendait au début. Elle s'appelle Cecilia Malmström, elle est suédoise, elle a appris le français à Saint-Germain-en-Laye et je lui ai demandé comment elle expliquait simplement ce qu'elle faisait dans le monde si compliqué du commerce mondial.
Ma fille, elle croit que je fais du shopping, pour faciliter le shopping. Mais c'est pas mal comme explication. Ben, j'essaie d'expliquer que l'Union européenne, quand on est 28 pays, on a quand même une grande force. Beaucoup de pays veulent négocier avec nous. Et c'est ça que je fais, et je représente là tous les pays membres de l'Union européenne.
Vous pouvez brièvement me dessiner à quoi ça ressemble une négociation commerciale ?
Donc moi, j'entre avec le ministre ou avec l'équipe ministérielle du pays, par exemple, disons, le Japon, avec qui on a fini une négociation qui est entrée en vigueur, et on essaye de résoudre les grands problèmes politiques qui sont difficiles, discuter comment on peut reprocher. Et tout ça, c'est basé sur un mandat, c'est-à-dire les directives de négociation qui sont agréées par tous les États membres.
Alors, ce que la commissaire m'a dit, c'est que même si tous les États membres sont formellement partants pour signer des accords de commerce, toutes les populations, elles, ne sont pas aussi allantes. Et dans certains pays, comme la France ou la Belgique, il y a une inquiétude qui est assez forte.
Et pourquoi est-ce qu'il y a cette inquiétude? Pourquoi est-ce que certains pays ont plus peur des accords de commerce que d'autres?
Alors ça, c'est André Sapir, donc le professeur qu'on avait entendu plus tôt, qui me l'a expliqué. Il y a un clivage historique entre le Nord et le Sud de l'Europe. Et tout le monde ne sort pas gagnant de la globalisation et des accords de commerce. À la grosse louche, comme il me le dit, ça repose sur trois choses. Un, le type de produits que les pays fabriquent. Plus on est sur des produits de haute technologie, des produits de luxe, comme la bonne mozzarella ou le champagne, moins on est en concurrence avec des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Deux, les modèles sociaux des pays en question. Dans les pays nordiques, des petits pays historiquement ouverts au commerce, on protège beaucoup moins les emplois qu'on ne protège les personnes en leur donnant un droit à la formation. Et trois, dans les pays du Nord, d'où vient Cécilia Malmström, l'idéologie libérale est plus prégnante, alors qu'en France, le mot libéral peut être vu comme un gros mot. Et pour illustrer le propos, j'ai retrouvé une vidéo d'archives qui explique bien les mécanismes du commerce mondial et aussi l'idéologie qui a présidé à l'accélération de la mondialisation dans les dernières décennies. C'est une vidéo de Milton Friedman, un prix Nobel d'économie qui a conseillé Ronald Reagan et Margaret Thatcher « Attention, éloignez vos enfants du poste, c'est un ultra-libéral ».
Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil.
Regardez bien ce crayon à papier. Il n'y a pas un seul être humain sur la Terre qui soit capable de faire ce crayon tout seul. J'exagère ? Pas du tout. Le bois qui a permis d'en faire la base vient d'un arbre coupé dans l'État de Washington. Pour couper cet arbre, il a fallu une scie. Pour faire cette scie, il a fallu de l'acier. Pour faire de l'acier, il a fallu du minerai de fer. Regardez bien maintenant la mine de ce crayon. C'est du graphite qui vient probablement d'une mine en Amérique du Sud. Et à l'autre extrémité, ce bout rouge-là, la gomme, c'est du caoutchouc qui vient de Malaisie. Et le bout de fer qui relie la gomme au crayon, ou même la peinture jaune qui lui donne sa couleur, ou la colle qui a permis de tenir tous les éléments ensemble, eh bien, plusieurs milliers de personnes ont collaboré pour faire ce crayon. Des personnes qui ne parlent pas la même langue, qui pratiquent différentes religions, qui se détesteraient peut-être s'ils se rencontraient un jour. Qu'est-ce qui peut encourager tous ces hommes à collaborer pour faire ce crayon? La magie du système de prix qui les a rassemblés pour qu'ils fassent ce crayon et que vous puissiez l'avoir pour trois fois rien. C'est pourquoi le bon fonctionnement du marché est si crucial. Pas seulement pour avoir le meilleur produit au meilleur prix, mais pour encourager la paix et l'harmonie entre les habitants de la planète.
Foule continentale sur France Inter.
Elle est marrante cette vidéo, on voit Milton Friedman dans un grand amphithéâtre tout en bois, c'est assez drôle à voir, on mettra le lien sur l'émission. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il met en avant, ce soit la paix entre les peuples, alors que dans nos esprits, l'économie mondiale, ça met plutôt les pays en concurrence les uns contre les autres.
Oui, alors il y a cette croyance bien présente encore dans les esprits que le commerce adoucit les mœurs. D'ailleurs, en parlant avec Cécilia Malmström, on a l'impression que l'Europe n'a pas d'ennemis, elle a que des amis. Alors que pourtant, dans le monde que dessine Donald Trump, il y a d'un côté les Indiens et de l'autre les cow-boys. On a l'impression parfois que les Européens sont un peu les grands naïfs de la mondialisation, mais certains s'en défendent et disent que non, nous ce qu'on est, c'est les garants du système des années 50, créé en réaction à la guerre et qui veut le commerce mondial, la coopération mondiale.
Multilatérale plutôt que bilatérale, comme le prône Donald Trump. Et donc, pour revenir à l'exemple de Friedman, il parle du nombre de personnes qu'il faut pour fabriquer un seul et unique crayon. On imagine que c'est devenu beaucoup plus compliqué aujourd'hui avec la fabrication d'un smartphone, par exemple.
Oui, et les accords de commerce sont devenus aussi techniques que le monde qui nous entoure. J'ai demandé à la commissaire Malmström un exemple assez concret de ce qui pouvait se négocier dans les accords commerciaux. Elle m'a parlé des négociations qui se préparent avec les Américains et elle m'a parlé des standards de certification et des huîtres.
Ici, en Europe, les huîtres et les moules, quand on les teste pour voir qu'ils sont bien, on teste l'animal, enfin le chair, le mollusque en soi. Alors les Américains, ils testent l'eau dans laquelle ils vivent. Mais ça revient plus ou moins au même, les résultats. Alors si on peut se mettre d'accord sur ça, on pourrait faciliter l'exportation des huîtres françaises dans tous les restaurants new-yorkains qui ne demandent que ça. Et aujourd'hui, c'est très difficile.
Vous mangeriez une huître américaine, Madame la Commissaire ?
J'en ai déjà essayé. C'est pas mal, mais je dirais que les Français et les Hollandais sont beaucoup meilleurs.
C'est bien, elle vend bien sa cam européenne, notre commissaire. Bon, mais l'huître, ça a l'air plutôt anodin et vraiment, du coup, technique.
Oui, mais attention, c'est pas parce que c'est technique que c'est pas politique. Et ça, c'est Laura Vérec qui me l'a dit. Elle est lobbyiste pour les Amis de la Terre, une ONG. Et elle, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que le commerce mondial moderne, c'est plus juste baisser les droits de douane, mais c'est aussi toucher à des normes, et notamment des normes environnementales. Alors, pour elle, il n'y a pas vraiment de débat en Europe sur le genre de commerce que l'on veut. Et les accords commerciaux continue d'être voté dans l'indifférence totale. Et c'est vrai, la veille de mon entretien avec elle, les députés européens venaient de voter un accord commercial entre l'Europe et Singapour et personne, pratiquement personne, n'en avait parlé. Du coup, j'ai demandé à Laura Vérec pourquoi est-ce que les idées de son association, les Amis de la Terre, ne trouvaient pas de majorité. Voilà ce qu'elle m'a répondu.
Alors, un des soucis qu'on a, c'est que lorsque vous ouvrez un traité de commerce, c'est 1400 pages. Ce sont des chapitres assez complexes à comprendre. Donc on a aussi un manque d'informations assez important au niveau des députés européens. Ensuite, c'est un milieu où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à faire. Donc les tribunaux d'arbitrage, on a des avocats qui sont payés 1000 euros par jour. Et on a beaucoup de personnes dans le milieu académique qui sont avocats dans ces tribunaux d'arbitrage. Donc on a très rarement de l'expertise sans conflit d'intérêt. Et donc il y a un manque d'expertise au niveau universitaire, il y a un manque de connaissances au niveau des députés. Et puis il y a tout un discours de... Si vous vous opposez à un traité de commerce, vous êtes forcément anti-commerce. Et c'est très difficile de casser ce discours, en fait. Pour l'accord avec Singapour, j'étais au Parlement, une députée libérale me dit « Ah, mais si vous êtes contre le commerce. » Et je pensais qu'après 5 ans de législature, on aurait des députés qui ne m'auraient plus sorti un discours pareil, et pourtant c'est encore le cas. Mmh. On peut être totalement pro-commerce, mais pas accepter le commerce tel qu'il est maintenant. Mmh. Est-ce que le commerce, c'est vraiment tant une priorité, plus grande que celle qu'on peut avoir au niveau environnemental, climatique, social.
Et ça tombe bien parce que ce débat de quel type de commerce on veut dans l'Union européenne, on peut l'avoir. Les élections européennes, c'est dans 3 mois et les députés qu'on va élire, ils auront un vrai pouvoir en la matière.
Oui, c'est ça. Les députés européens ont droit de vie ou de mort sur les accords commerciaux et les autres accords internationaux.
Alors, petit rappel technique pour les Français. Depuis cette année, vous avez jusqu'au 31 mars, donc encore un peu plus d'un mois pour vous inscrire sur les listes électorales. Pour les Belges, vous êtes automatiquement inscrit comme le vote est obligatoire. Et puis pour les Européens non belges ou non français résidant en France ou en Belgique ou ailleurs, vous pouvez aussi voter, mais dans ce cas-là, il faut s'inscrire dans votre ambassade ou dans votre consulat. Merci à Benjamin Riquet à la réalisation, merci à Djoubaka pour la musique. Retrouvez-nous dès ce soir sur libération.fr et demain en kiosque dans la double page spéciale des élections européennes dans Libération. Par ailleurs, sur France Inter, Fabienne Synthèse organise 3 rendez-vous dans 3 grandes villes autour des élections européennes. Le 28 février, elle sera en direct de Budapest pour le 18-20 avec des invités des reportages. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un documentaire et Maxime, c'est quand ton prochain passage ?
Je sais pas, mais j'aurai la même chemise.
Il me semble que c'est le 24 pour l'émission du 24 mars. Merci beaucoup et à dimanche prochain.